wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny, réalisation Thomas Beau. Et autour de moi ce soir, Sandra Dancoural et Annaëlle Pijat et Frédéric Bonnet pour parler ensemble de l'exposition Michael Jackson on the Wall au Grand Palais, de celle de Shimabuku au Crédac intitulée Pour les pieuvres, les singes et les hommes, et celle intitulée Ossip Zadkine, l'instinct de la matière au musée Zadkine. Il y aura un coup de cœur signé Annaëlle Pijat pour un livre consacré à Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour le film Diamantino de Gabriel Arantes et Daniel Schmitt, Grand Prix à la semaine de la critique du Festival de Cannes qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Et nous ouvrons cette dispute avec une exposition qui fait le lien avec nos disputes de mardi, qui sont musicales. Nous allons parler de Michael Jackson on the Wall, exposition on tour, puisqu'elle nous vient de Londres. Elle ira après Paris, en Allemagne et en Finlande, organisée par la National Portrait Gallery de Londres, produite à Paris par la Réunion des musées nationaux Grand Palais. Les commissaires en sont le docteur Nicholas Cullinan, Lucy Dalsen et Vanessa Desclos, commissaire parisienne de l'exposition Scénographie, signée de l'agence Clémence Farrell. On aura compris que le sujet de l'exposition est l'influence, l'impact, la façon dont Michael Jackson, sa vie, son œuvre, son image, a nourri le champ de l'art contemporain ces 40 dernières années. Mais la soupe, ça le regarde. Non, c'est pas moi, ma meilleure époque hein, pour Michael Jackson. Off the Wall, le morceau qui donne ce titre ô combien réfléchi, bien vu, de On the Wall pour l'exposition qu'on peut découvrir au Grand Palais à Paris jusqu'au 14 février. Elle ira ensuite à Beaune et en Finlande. Beaune. Pas Beaune, hein, mais Beaune. Je sais pas comment on dit. J'ai oublié ce soir. Sandra Dancoural, est-ce que vous êtes allée danser dans l'exposition du Grand Palais avec joie ou pas?
On danse pas vraiment en fait.
Intérêt, c'est un peu un des problèmes.
Mais bon, on danse pas vraiment, c'est absolument pas une exposition hommage à Michael Jackson dans son domaine. C'est une exposition donc qui se veut traverser la question de son impact sur l'art contemporain. En effet, Michael Jackson, c'est une des personnalités les plus représentées dans les arts visuels. Et là, on a des exemples plutôt qualitatifs, quand même, d'œuvres depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui autour de la figure de ce King of Pop. Et effectivement, je pense que les fans vont être un peu perplexes et un peu déçus parce qu'il n'y a pas de clip, il y en a un de sa tournée à Bucarest qui est assez phénoménale, mais enfin il n'y a pas de musique. Voilà, c'est plutôt une traversée des grands noms des arts visuels depuis les années 80. Alors, faut dire que Michael Jackson, c'est un féru de musée et qu'il y a de nombreuses références d'ailleurs qui jalonnent son imagerie à lui. Il y a ce tableau incroyable de Mark Crichton, donc qui a servi à faire la pochette de l'album de Dangerous, qui avait été commandé par Michael Jackson lui-même, où on voit que on connaît tous cette pochette, et on voit en fait, en s'approchant un peu, en analysant les détails, qu'il y a de nombreuses références. Il y a des références au Napoléon Ier, représenté par Ingres, qui ici prend une tête de chien. On a des références aux photos du couronnement de la reine Elisabeth Ier, qui ici prend une tête d'oiseau. Et surtout, on a des références au Jardin des Délices de Jérôme Bosch. On sait aussi que Michael Jackson, il était féru d'art pompier. Et notamment, il se faisait représenter, je crois, à la manière d'un William Bouguereau, par différents peintres, de manière pastiche, c'est-à-dire que il se faisait représenter à la manière de William Bouguereau, avec sa tête à la place des visages des personnages représentés. Et on en a un exemple, alors qui n'est pas un exemple imité de William Bouguereau, mais que c'est le même procédé, puisqu'on a un portrait par un artiste afro-américain qui s'appelle Cain DeWiley, qui le campe un peu façon Rubens, comme ça, en Philippe II d'Espagne, sur un grand cheval, et c'est le grand tableau qui nous accueille à l'entrée de l'exposition.
Bon, je reviendrai sur votre goût, ou moins,
oui,
pour
je
cette exposition, mais Anna, mais vous faites bien, parce que comme ça on a déjà des images, et ça va se continuer avec Anna, et puis je reviendrai vers vous, Sandra, bien sûr.
C'est effectivement une exposition trompeuse, puisqu'il y a quasiment pas de mémorabilia. Il y a un gant qui sert d'invitation, de carton d'invitation pour une exposition, et une veste qui est une commande de Michael Jackson à un designer, qui est recouverte de petits couverts de cuillères et de fourchettes argentées. Mais effectivement, le reste, c'est un parcours à travers des œuvres d'art. C'est une œuvre qui est en fait c'est une exposition plutôt qui est surtout sur la construction des images, en fait. Sur la construction de l'image de Michael Jackson par Michael Jackson. On se demande si lui-même n'est pas une œuvre d'art, peut-être une œuvre d'art totale. C'est un peu ce qui est intuité dans l'exposition. Sur la construction des images dans l'art, et sur la construction aussi des images d'une mémoire collective à travers ce prisme de l'image de Michael Jackson. Quand vous disiez tout à l'heure qu'on ne dansait pas dans l'exposition, en fait, moi j'ai vu justement des gens danser de manière assez singulière dans une œuvre qui me semble un peu résumer toute la catharsis que cette exposition peut exercer sur ses visiteurs. C'est une œuvre de Candice Bright qui se compose de 16 écrans, qui est très judicieusement montrée dans un couloir fermé. On y rentre et on voit sur chacun de ces 16 écrans des fans en train de danser, en train de jouer l'ensemble de l'album Thriller. Et au moment où j'y suis allée, un vendredi après-midi, la salle était pleine à craquer et les gens dansaient et chantaient dans l'exposition. Et en fait, je trouve que ça résume assez bien l'étonnante ferveur quand même que moi j'ai vue dans l'exposition en action. Alors ensuite, il y a des œuvres de qualité inégale. Il y en a une qui est assez saisissante aussi, qui est de Apo Junior Boake Yadom, qui est sur la posture de Michael Jackson Freeze, dans laquelle on voit deux petites chaussures, deux mocassins noirs sur la pointe des pieds, retenus en l'air par des ballons qui se dégonflent les uns après les autres et qu'il faut regonfler les uns après les autres. C'est une vision très saisissante. Il y a aussi des commandes chorégraphiques qui sont assez réussies. Alors, il y en a une de Raphaël Delaunay et Jacques Gamblin qui est au son d'une musique de Michael Jackson de musique baroque justement, avec les mouvements de Michael Jackson. Quand on pense à l'œuvre de Clément Cogitor à propos des Indes galantes, je trouve que c'est un peu moins bien réussi. Or, c'est quand même vraiment sur le même principe. Mais il y a une autre commande qui est vraiment très belle, de Jérôme Bell, dans laquelle il fait exercer le moonwalk à diverses personnes de toute génération, de tout. Et on voit là aussi l'espèce d'adhésion populaire.
Dans sa pièce gala.
Exactement, oui, voilà. Mais en fait, on voit encore là aussi la dimension cathartique de ce personnage, et de ce que peut avoir l'exposition.
Alors, ensuite, y a-t-il eu catharsis pour Frédéric Bonnet avant que je revienne vers vous, Anaëlle?
Non, moi j'y vois pas de catharsis. Je crois pas non plus qu'on puisse dire que ce soit une exposition trompeuse, parce que je crois pas qu'elle soit du tout annoncée nulle part comme étant une expo mémorabilia.
Non, vous avez des immenses affiches dans Paris, oui, Michael Jackson sûr, mais, on the wall.
Mais bon, je pense que...
Il y a une forme d'ambiguïté.
Je suis pas sûr. Je pense qu'on sera au Grand Palais pour aller voir une exposition d'art contemporain. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas les choses comme ça. Par contre...
Surtout venant de Londres, hein, moi j'avais cru... Ça vient pas du V&A qui est un peu spécialisé dans ce type d'exposition sur des artistes et avec des fétiches quasiment. Donc là, c'est... Les Anglais savent faire ça, mais ça vient en effet de la National
Portrait Gallery.
Voilà.
Et justement, par contre, moi, me fait bondir le propos du commissaire, de Nicolas Cullinan, le directeur de la National Portrait Gallery, qui dans son texte du catalogue évoque ce que vous évoquiez, Anaëlle, cette idée d'œuvre d'art totale. Il écrit « Le sujet de cette exposition est Michael Jackson, artiste reconnu comme tel par d'autres artistes et en soi œuvre d'art totale. » Alors moi, je veux bien, sauf que l'exposition ne l'exprime en rien du tout. S'intéresser à une œuvre d'art totale, c'est rester à la surface des choses, on voit pas bien loin. Et alors, du coup, c'est très, très dommageable pour le sujet, parce que malheureusement, cette exposition qui ne manque pas d'œuvres intéressantes, est totalement frustrante, car elle est parfaitement inaboutie. Et si elle est inaboutie, c'est que je regrette qu'elle reste à la surface des choses. Elle reste à la surface d'une icône de la pop qui a influencé les images, qui a influencé les comportements, mais ça ne va pas au-delà. Et notamment, ça n'esquisse que trop brièvement des questions sociales, raciales et sociétales que pourtant une telle exposition
Sur l'image.
Mais oui, mais justement, une telle exposition aurait dû porter aussi ces questions-là, et que les rares esquisses qu'on en voit sont noyées dans le flot de la célébration et de l'acclamation. Et ça, c'est parfaitement regrettable, parce que il y a quand même quelques très bonnes œuvres qui font référence, mais encore une fois noyées dans le flot. Il y a notamment ce qui pour moi était une découverte complète, une très très belle série d'œuvres d'un artiste qui s'appelle Todd Gray, qui a été un des photographes de Michael Jackson et qui en même temps qu'il était photographe de Michael Jackson faisait un master's en fine arts dans une université américaine. Et là je le cite, le propos de son travail c'était d'analyser l'impact du pouvoir postcolonial sur la construction des notions de race, de classe et de genre. Donc il y a quand même de quoi faire et de quoi dire. Et son travail est absolument remarquable parce que il associe des images de la star avec des images qu'il a faites, toujours lui-même, au cours de missions documentaires au Ghana. Et tout ça est fait avec une finesse à la fois plastique, sensible,
et
intelligente. Et donc voilà, on a des questions comme ça qui sont vaguement effleurées, mais cette exposition reste simplement dans une célébration de l'image, rarement au-delà, et c'est très dommageable parce qu'on aurait pu faire mieux.
Anaëlle Pijat pour répondre.
Je suis pas tout à fait d'accord que ça soit complètement écrasé dans l'exposition, parce que l'espace qui est dévolu aux œuvres de Todd Gray, effectivement une découverte tout à fait passionnante et quand même tout à fait important par rapport aux autres artistes de l'exposition.
Oui, mais pardonnez-moi, il est complètement noyé à côté des portraits de Warhol, de je sais pas quoi en face, et il y a pas une seule section. Si vous prenez les intitulés des sections de l'exposition, alors un danseur de légende, l'avènement du roi de la pop, un citoyen du monde, donc là vaguement, éventuellement, on esquisse quelque chose.
Pas trop.
Le masque, icône et idole, dédoublement, citation, c'est quand même d'une platitude infernale. Et jamais, justement, ça ne va dans un. Ça ne s'enfonce dans un quelconque contenu.
Alors, Sandra, donc on va aller sur ce débat en cours, peut-être.
Mais je suis plutôt d'accord avec Frédéric, parce que une fois qu'on a compris que, ok, on est dans une exposition plutôt d'art contemporain, alors à ce moment-là, on est un peu déçu, parce que il y a une richesse en fait dans les œuvres. Moi, je trouve, il y a plutôt des artistes comme ça que j'ai découvert, comme Todd Gray, je suis tout à fait d'accord, qui sont très intéressants, avec un discours complexe dans la complexité justement de cette représentation de Michael Jackson, qui est tantôt une une icône afro-américaine, donc qui est un petit peu abordée dans cette salle qu'on appelle, enfin qu'ils ont appelée Citoyen du Monde. Tantôt une idole exubérante, tantôt un personnage inquiétant. Enfin, il y a quelque chose à faire quand même avec ce mythe. Et les œuvres, elles contiennent en elles, en fait, finalement, ce discours complexe. Mais ce discours, il est complètement sous-exploité, en fait, et il est parfaitement lissé, je trouve, notamment très simplement par les titres des salles. Et je suis complètement d'accord avec Frédéric, parce que la question du masque, du dédoublement, de l'icône ou de l'idole, ce sont des grands thèmes où n'importe quelle œuvre, en fait, aurait pu entrer, ou alors on a un rapport formel. Voilà. Et c'est dommage parce qu'on a des artistes assez polémiques dans l'exposition. Je pense notamment à Jordan Wolfson, qui est un artiste très polémique. Il y a une vidéo que je trouve assez incroyable dans l'exposition où en fait il a isolé cette vidéo, cette interview en fait de Michael Jackson alors qu'il est accusé d'agression sexuelle sur des enfants. Il a isolé simplement son regard, il a fondu le reste en blanc et il a coupé le son, on entend un écoulement d'eau et on ne voit plus que on est face seulement à ce regard inquiétant et ambigu de Michael Jackson. Il y a quelque chose d'une mélancolie et d'une rare violence qui ressemble justement à tout cet univers de Jordan Wolfson. Vous savez, c'est cet artiste qui a fait notamment cette grande poupée à la tête de entre Chucky et Pinocchio, qui était retenue par des chaînes et qui est ballottée mécaniquement et très violemment dans une grande installation. Il y a Jordan Wolfson, il y a aussi, on pourrait parler de McCarthy, qui se moque d'ailleurs de la représentation un petit peu, on va dire, lisse que fait Jeff Koons de Michael Jackson, qui est son Michael Jackson qui tient dans ses bras son chimpanzé Bubbles. Et dans l'exposition, il y a une œuvre où McCarthy reprend cette iconographie de Jeff Koons, la photographie et la transforme en fait en faisant se superposer l'image du singe et de Michael Jackson, et transforme finalement l'idole en une sorte de monstre qui ressemble plutôt à un grand clown avec des sortes de grands pieds, enfin voilà, une sorte d'image monstrueuse. Et c'est dommage parce que ce contenu voilà, très polémique, très complexe, voilà, qui aurait pu être amené et lissé, je trouve, par le parcours de l'exposition.
Oui, parce que cette œuvre de McCarthy, elle est pour moi représentative de ce qui aurait pu être la question. Parce que si on s'en tient à l'image, il y a déjà de quoi faire sur la question de la représentation, sur la question de la modification de l'image, sur la question de l'icône, enfin chez Michael Jackson. Il y a
de l'africanité,
il y a peut-être pas autant de bonnes œuvres que cela a montré, mais enfin il y avait une piste à Nel Pijat.
Mais je suis pas d'accord parce que les questions sont là, ce sont les œuvres qui sont importantes, c'est pas les titres des sections. Or les œuvres, elles expriment ces différents thèmes qui croisent la question de ses représentations de Michael Jackson, son rapport à l'art, son rapport à l'art pompier.
Pas dire que ce soit d'une acuité folle, Anaël.
C'est
quand même ça, c'est indolore tout ça. C'est un peu indolore.
On est quand même en train de parler d'un artiste qui a été un point clé dans la culture du XXe siècle, non seulement dans la culture musicale, mais aussi dans la culture visuelle par les vidéoclips et parce qu'il a pu porter de questionnements raciaux. Heureusement, l'exposition se termine par une œuvre absolument merveilleuse de Lauren O'Grady, qui est une artiste absolument formidable, qui compare Michael Jackson, les images de Michael Jackson, aux images de Baudelaire. Pourquoi ? Parce que elle y voit le premier et le dernier des modernistes. Avec des questions de soucis de la perfection, de comment gérer la gloire artistique et de l'artiste maudit. Mais est-ce que vous avez ces questions-là qui sont abordées quelque part dans l'exposition ?
Mais ce sont les œuvres qui parlent, c'est pas les titres des chapitres.
Mais enfin, un commissaire d'exposition, il est quand même là pour mettre en perspective les œuvres. Est-ce que vous avez une seule salle qui véritablement pose des questions autres que l'image de Michael Jackson ? Moi, j'en vois pas.
Il aborde à travers ses œuvres la question du genre, ses questions politiques, le rapport à la modernité, comme vous venez de dire, le rapport aux images, et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et il le fait aussi dans le texte du catalogue, dans lequel on apprend des choses beaucoup plus détaillées sur son rapport aux œuvres d'art lui-même, le fait qu'il possède aussi des œuvres de William Bouguereau, de Norman Rockwell. Tout ça est quand même extrêmement bizarre. Et le propos du commissaire est là.
Mais ça sera bien que ça soit un peu plus explicité dans l'exposition, il me semble, parce que le public passe complètement à côté de ça. Et encore une fois, reste un sujet de banalité, de la fanitude et de je ne sais quoi, de comment on va gérer la starification, l'image, etc. Et on va pas au-delà de ça, alors qu'il y avait matière à aller au-delà de ça.
On va au-delà de ça.
Sandra, donc on va aller pour finir.
Mais vous avez raison, c'est abordé. Les œuvres parlent de ça, mais on ne le voit pas. C'est-à-dire que nous, on va dire les choses, on s'y connaît un peu, donc forcément Jordan Wolfson, ça me parle, etc. Mais quelqu'un qui a envie de comprendre tout ça, il n'est pas aidé, disons, il n'est pas, on lui montre pas le chemin.
Ça
je trouve.
Beaucoup accompagné. Et puis voilà, il y a des cartels. Procurer le catalogue.
Il y a des cartels développés, mais c'est tout. C'est vrai que ça a tendance à se fondre dans une sorte de mythe romantique qui est pas désagréable, mais c'est dommage parce qu'effectivement les œuvres sont là.
Exposition indolore, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est un peu dommage, avec de très belles œuvres. On en a, vous en avez tous cité quelques-unes, mais on aurait attendu quelque chose de plus de parti pris plus prononcé, d'un travail peut-être plus rigoureux aussi d'analyse. Bon, allez voir par vous-même si vous en avez l'occasion cette exposition Michael Jackson on the Wall jusqu'au 14 février au Grand Palais. Et puis si vous le pouvez, achetez ou faites-vous offrir le catalogue édité par la RMN Grand Palais, à suivre dans la dispute Shimabuku, Zipsatkin et les Noailles.
La dispute France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute art plastique, en nous rendant au Crédac pour découvrir une exposition donc, que nous avions évoquée il y a quelques semaines, mais là on prend plus de temps, exposition au titre étrange, pour les pieuvres, les singes et les hommes. Exposition pour laquelle l'artiste japonais Shimabuku a prélevé des sédiments lors d'errances dans la ville d'Ivry. Sédiments qu'on va retrouver comme des îlots dans l'espace du Crédac. Il a aussi demandé aux habitants de l'immeuble en face, du centre d'art de mettre des dahlias rouges à leurs fenêtres. Enfin, quelques gestes simples dont nous allons parler.
One day, I saw a red flower floating in the waves at the coast. Will this flower drift away from here to some far place? I wondered. And I thought of the day when these flowers, long ago, drifted here from the continent across the sea. Where will they go, the flowers I cast into the sea? Will they eventually arrive somewhere?
Un extrait sonore d'une œuvre de Shimabuku qui était présentée à la Biennale de Venise pour entrer dans cette exposition à la suite d'Anaël Pija.
C'est une exposition dont le titre est extrêmement juste, comme vous. Enfin,
j'avais dit étrange, moi, mais on va pouvoir dire pourquoi il est juste.
En tout cas, il est juste pour ce qui concerne l'œuvre de Shimabuku, qui a au cœur de son travail la question des rapports de l'homme avec son environnement.
Surtout avec les méduses, il faut le dire. Quand même,
particulièrement avec
méduse.
Les méduses, absolument.
Les poulpes, je dis méduses parce que je reprends le... Ah oui, c'était les pieuvres, je ne sais pas pourquoi je disais les méduses. À quoi
parce
pensais-je?
Que ça ressemble un peu.
Quoi pensais-je? Peut-être. Les poulpes, bien sûr.
Donc c'est une exposition au titre très juste. C'est une exposition d'un artiste rare. Et il faut rendre hommage à la programmation du Crédac et à la programmation de Claire Le Restif de montrer une exposition de Shimabuku qui est une sorte de mini-rétrospective en fait, qui donne une idée, qui à partir de quelques œuvres très bien choisies, donne une idée générale de son travail. Depuis ses premiers travaux jusqu'à des productions récentes, puisqu'il y a deux productions dans l'exposition. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que Claire Le Restif a... eu l'idée de... Le Shimabuku a été introduit dans le cercle, si j'ose dire, du Crédac par une autre artiste, Lara Almarsegui, que Claire Le Restif avait programmée dans une exposition il y a quelques années. Et en fait, on voit là une sorte de famille, de communauté de pensée, communauté artistique, autour de ce lieu qui, dans la manufacture des œillets, à Ivry-sur-Seine...
Il fête ses 30 ans, on évoquera le livre qui sort à cette occasion.
Avec un livre tout à fait intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans l'exposition? Eh bien, on voit un ensemble d'œuvres de Shimabuku, quelques-unes qui sont des productions faites à Ivry même. Une qui s'appelle Terre d'Ivry, Eau et Lumière, dans laquelle Shimabuku a demandé à ce qu'on apporte dans l'exposition quelques mottes de terre prélevées à Ivry dans différents endroits. On a demandé qu'on les installe au bord des grandes baies vitrées magnifiques de la manufacture des œillets pour voir comment la terre allait évoluer, fleurir. Alors moi, je l'ai vu au début de l'exposition. Ça a dû beaucoup changer depuis. Donc il y a cette œuvre-là. Il y a l'œuvre extraordinairement poétique qui s'appelle « Des fleurs pour les voisins » dans laquelle il a demandé en effet à chacun des voisins de l'immeuble d'en face du Crédac de mettre à leur fenêtre un dahlia rouge, et le jour du vernissage de l'exposition sont apparus sur les fenêtres d'en face des dahlias posés sur la fenêtre, accrochés avec du scotch. C'était une vision extraordinairement poétique et qui a permis au Crédac de rentrer en contact avec cet immeuble vraiment.
Il était temps.
Littéralement en phase, alors que ce n'avait pas été le cas directement auparavant, alors même que le Crédac mène une politique extrêmement active auprès des habitants d'Ivry.
On poursuit la visite avec Frédéric Bonnet.
C'est une exposition merveilleuse. Il faut vraiment aller la voir parce que, à une époque d'individualisme échevelé, je dirais, on se retrouve plongé dans l'univers totalement singulier d'un artiste qui compose un art de la dérive et de la rencontre improbable et qui se met à l'écoute du monde avec des gestes qui paraissent n'être rien ou pas grand-chose et qui finalement vont s'accumuler et vont produire du sens, des images, des rencontres, tout ça dans une délicatesse absolue et avec un sens de la narrativité parce que c'est un édificateur de récits Shimabuku, et je crois que c'est ça qui l'intéresse en premier lieu, c'est de provoquer des rencontres pour provoquer du récit, pour provoquer de la narration, une narration qui est toujours sensible, où il y a toujours une émotivité qui affleure. Et où il y a cette manière que je trouve si singulière de mettre en avant une sorte d'insignifiance qui en fait ne l'est pas et qui va finir par parler parfois beaucoup et par parler à beaucoup de monde. Moi, je suis resté toujours assez saisi face à cette image qui est dans l'exposition. De quand il avait été invité en 1999, je crois, au printemps de Cahors, où il avait fait, il était là, présent, assis dans la ville de Cahors, avec un grizzly en peluche plus grand que lui assis à côté de lui, et un peu plus loin il y avait un dalmatien en porcelaine, et à côté de lui aussi un aquarium dans lequel il y avait deux pieuvres.
On en arrive déjà. Aux pieuvres.
Et donc il était là, et puis il attendait le passant, en quelque sorte, voir s'il pouvait se passer quelque chose, s'enclencher les rencontres, et donc encore une fois se mettre en place une narration. Et on voit que son travail est resté très très fidèle à ces principes-là, de déplacer, parce qu'il y a de ça aussi, il y a de déplacer des contingences pour aller voir ce que ça peut produire ailleurs. L'exposition se termine merveilleusement sur cette œuvre qui avait été montrée à la Biennale de Venise, la dernière Biennale de Venise, qui s'intitule Les singes des neiges se rappellent-ils des montagnes enneigées, et dans laquelle il avait appris que des singes japonais qui vivaient dans la montagne, donc dans la neige, avaient été transplantés au Texas ou en Arizona, je sais plus, enfin en tout cas dans une terre
loin
désertique.
De la neige.
Et il est allé les voir aux États-Unis en se demandant comment ils vivaient maintenant et s'ils se souviendraient de ce que c'est que la glace. Et il est allé chercher dans un distributeur automatique de la glace qu'il a répandu sur le sol pour voir si les singes allaient se la réapproprier ou pas. Et en fait, les singes se la sont réappropriés. Donc c'est presque rien, c'est pas grand-chose, mais ça dit, moi, je trouve, tellement.
Sandra, Adam Corallé, est-ce que ça vous a parlé, à vous aussi? Ça parle à beaucoup de monde.
C'est en fait, ce que j'aime dans la poésie de Shimabuku, c'est que c'est à la fois loufoque, et en même temps, c'est toujours ancré dans une réalité, dans la réalité, en tout cas, dans laquelle il est en train d'intervenir, où il intervient. Et ses œuvres, elles s'inspirent donc toujours d'un événement ou d'une personne, d'une situation qu'il a pu vivre ou observer, et dont il va pousser la logique, en fait. Et il va nous en révéler, finalement, la bizarrerie merveilleuse. Frédéric, vous parliez du presque rien, c'est vraiment ça. Dans un micro-événement, il arrive à faire circuler en fait du sens. Il arrive à faire circuler du sens entre les choses qui nous entourent, que ce soit un animal, un objet ou un homme. Et dans cette exposition notamment, qui est en trois parties, donc comme le titre l'indique, une partie pour les pieuvres, une partie pour les singes et une partie pour les hommes, il donne de manière horizontale finalement la parole à ces trois régimes d'être d'être vivant. Et même s'il n'y a pas vraiment de discours écologique, en tout cas l'artiste lui n'énonce rien d'aussi clair, il y a une approche du monde qui permet voilà de s'interroger sur cette question du vivant. Il arrive à ériger donc ériger volontairement parce que c'est le titre de la première salle. Ouais. Il érige des objets en sujet, il reconsidère l'animal. Voilà, il arrive à transformer de manière horizontale donc l'objet, l'animal en acteur en fait, alors qu'on a tendance à le considérer comme un paysage. Alors ériger, donc c'est, je le disais, c'est le titre de la première salle, en fait, d'une installation qu'on peut voir dans la salle, je crois, dédiée aux hommes, consiste en une vidéo qu'il a réalisée pendant un séjour qu'il a fait sur la péninsule de Oshika, pendant un festival du Japon où il était invité. Après le tsunami, sur la plage, il y avait des branchages et il a tout simplement fait l'action. L'action vraiment dans le sens de performance, hein, de redresser ces branchages qui traînaient et de les re-ériger en fait dans le sable. Et devant cette vidéo, puisqu'on est à Ivry et qu'à chaque fois Shimabuku s'empare en fait de
l'endroit où il
expose, c'est vraiment toujours une œuvre in situ. Il redresse des morceaux de maisons en fait qui ont été détruites lors d'un chantier à Ivry. Et il y a un petit texte qui accompagne très simplement cette installation, cette vidéo qui est mise en regard avec ces pierres dressées, où il dit, je ne vais pas le lire en entier, mais en tout cas il dit « ériger, placer les choses droites, placer debout les choses couchées ». En gros, il dit « nous essaierons de rassembler notre énergie pour placer de très grands arbres en position verticale, et alors peut-être quelque chose en nos cœurs se redressera ». Je trouve que ça se suffit, en fait.
Ça se suffit, il faudrait qu'on s'arrête là, mais on a encore quelques minutes pour parler de Shimabuku et faire comprendre aussi à nos éditrices et auditeurs que ça prend des formes différentes aussi, forcément, l'expression de son travail. On a parlé de vidéo beaucoup, mais d'installation. On a parlé de cette terre aussi amenée à Naël Pija, dans laquelle ça pousse.
Absolument, et il y a vraiment quelque chose dans son travail qui est à la fois une sensibilité, enfin qui se résume à une sensibilité au monde, enfin une attention au monde dans laquelle un état d'attention au monde dans lequel il nous plonge, à la fois à travers des vues très larges. Là, il a été évidemment très sensible au tsunami de 2011 dans l'œuvre, ce qu'on voit par exemple dans l'œuvre de Érigé dont parlait Sandra. Et il y a toute une veine d'artistes japonais qui travaillent dans cette direction, par exemple le collectif Chimpom, qui sont peut-être un peu plus des activistes que Shimabuku, mais il y a aussi chez eux quelque chose de non dit, quelque chose de à la fois d'extrêmement plein de sens et en même temps de très suggéré. Et donc du coup il y a cette vision du monde très large, les déplacements dont parlait Frédéric du poulpe dans le métro de Tokyo. Oui. On voit la vidéo du bateau où il pêche le poulpe jusqu'au wagon de métro par lesquels il regarde le mont Fuji. Et puis il y a aussi des tout petits objets, comme par exemple ces jouets pour pieuvres, parce qu'on sait que les pieuvres jouent au fond de l'eau avec des sortes de petits bricoles, de petits gadgets,
c'est pas très bien.
En tout cas, il a fabriqué quelques jouets pour pieuvres qu'on voit dans une vitrine. Il y a aussi une installation très délicate qui s'appelle quelque chose qui flotte, quelque chose qui coule, qui date de 2010. Il y a deux tomates. Il a été acheté seulement deux tomates au marché d'Ivry, ou il a fait acheter, je crois, seulement deux tomates au marché d'Ivry. Et effectivement, quand on plonge deux tomates dans un bassin d'eau, eh bien, il y en a une qui flotte et l'autre qui coule.
On en apprend des choses, Frédéric Bonnet, dans cette exposition Shimabuku, mais c'est vrai que c'était aussi l'occasion de saluer le travail fait par le CREDAC depuis donc 30 ans, 30e anniversaire. Alors il y a un épais volume, l'index de toutes les expositions, mais c'est vrai que c'est un lieu important, Frédéric.
Ben oui, c'est un lieu important qui défriche, qui donne la parole à des artistes qui ne sont pas les têtes de gondole du marché ou de la programmation de beaucoup de musées, et qui n'a pas peur de se lancer dans un vrai dialogue avec les artistes, parce que c'est ça aussi de construire une exposition. Moi, je crois que ça se fait en dialogue, et là on voit que l'exposition a été construite en dialogue, et que en plus de ça, l'art de Shimabuku, c'est un art du dialogue, et c'est qui colle bien aussi, cette exposition colle bien à l'activité du CREDAC, parce que je trouve que dans ce monde à toute allure, il y a dans le travail de Shimabuku quelque chose d'une temporalité basse, si je puis dire, donc de ralentir, et le CREDAC fait ce programme aussi en ne se mettant pas à la remorque des choses, et cette temporalité basse dans le travail de Shimabuku, je pense qu'elle est là pour aider à se reconnecter à ce qui finalement a de l'importance, aux rencontres importantes, au développement important, aux surprises importantes.
Un dernier mot, Sandra, avant qu'on aille sur le CREDAC.
Juste pour dire sur par rapport à ce que disait Frédéric sur un art du dialogue et sur Shimabuku en particulier, c'est pas un artiste conceptuel dans le sens où sa poésie nous resterait inaudible, et ce que j'ai vraiment aimé,
très concret.
Oui, et puis le récit, il n'est pas crypté, c'est-à-dire qu'il est vraiment donné à voir, et il nous raconte très simplement les choses, et c'est assez symptomatique dans cette vidéo où on voit les chanteurs de Sao Paulo à qui il a demandé de raconter pour les besoins de la Biennale de Sao Paulo, parce qu'il ne parlait pas cette langue, à qui il a demandé de raconter ces vidéos. On voit qu'il leur laisse complètement libre champ à une interprétation, voilà, et c'est chanteur raconte, voilà, donc c'est une vidéo qui parle effectivement d'un poulpe qui a été pêché et que l'artiste relâche, et voilà, et ces chanteurs chantent les louanges, voilà, de cet artiste grand pêcheur qui en plus relâche les proies qui l'attrapent.
Voilà, quelques-unes des choses qu'on pouvait dire ce soir, Frédéric Bonnet, très rapidement.
Juste un mot, c'est que c'est un art très généreux, et que ça c'est absolument formidable.
Shimabuku, pour les pieuvres, les singes et les hommes, c'est jusqu'au 16 décembre au CREDAC, le Centre d'art contemporain d'Ivry. Puis à cette publication du livre Index 1987-2017, 30 ans du Centre d'art contemporain d'Ivry. C'est une coédition du CREDAC et de Dilecta. Petite musique légère pour annoncer le moment du coup de cœur. Le coup de cœur d'Anaël Pigeat ce soir pour un livre, puisqu'on était dans les livres, continuons. Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle d'Alexandre Demare, Stéphane Boudin-Lestienne. Couleurs contemporaines chez Bernard Chevaux, éditeur, avec l'association de la Villa Noailles. Alors, si vous nous racontez l'histoire des Noailles, l'émission va pas suffire, Anaëlle. Qu'est-ce que ce livre nous apporte et nous apprend? Alors, en dehors du fait que c'est un très beau livre.
C'est un magnifique livre qui n'est pas un livre d'universitaire, mais qui est un livre très savant, qui n'est pas un livre didactique, mais qui est un livre très clair, et qui finalement est un livre à l'image de son sujet, c'est-à-dire un livre dans lequel on s'amuse. Où on s'amuse, et j'utilise là une citation dans le livre, où on s'amuse avec des gens intelligents. En fait, on se promène dans ce livre. Alors, il faut dire que ce livre est initié par la Villa Noailles, qui est un lieu très vivant, qui est très vivant au début du XXe siècle, quand il est commandé, quand la Villa Noailles, qui s'appelle Saint-Bernard à l'époque, puisque la Villa Noailles, au début, c'est un autre endroit qui appartient à Charles et Marie-Laure de Noailles. En tout cas, c'est un bâtiment qui est commandé à Malestévens, et qui est un lieu vraiment de carrefour des avant-gardes où tout le monde se rencontre, mais qui a été rendu à sa dimension créative au début du XXIe siècle par Jean-Pierre Blanc, et qui conserve aujourd'hui une âme particulière parce qu'il accueille le Festival du Design et un certain nombre d'expositions. Alors, le travail fait dans le livre, mené par Alexandre Mar et Stéphane Boudin-Lestienne, est le fruit de 15 ans de recherche. En gros, ils ont fait de nombreuses expositions sur Charles et Marie-Laure de Noailles, avec chaque fois différents biais pour aborder leur sujet. C'est un livre qui rassemble des archives, des photographies, des documents, où on mesure des croisements très extraordinaires d'époques, où on voit à la fois que sont venus là Man Ray et Pierre Clémenti, Man Ray au moment du tournage du Château d'Ay, et Pierre Clémenti ou César, par exemple, dans les années 60, ce qui est toujours des raccourcis un peu étonnants. C'est un livre qui présente un modèle de mécénat très singulier, donc qui a une actualité particulière aujourd'hui, parce que c'est un mécénat d'une liberté totale, en fait, et très original, très créatif, que propose Charles et Marie-Laure de Noailles pour tous ces artistes. Ils sont finalement, à l'égard des avant-gardes, une sorte d'œcuménisme, dans le sens où ils soutiennent à la fois Dali, Balthus, Giacometti, Aragon, Breton, Bataille, Cocteau, Buñuel, Léris, et j'en passe encore beaucoup d'autres, au risque parfois d'essuyer des critiques et qu'il leur soit reproché, justement, de soutenir aussi largement des artistes. C'est un livre qui se lit comme un roman, qui est très bien écrit, qui n'est pas organisé selon une chronologie fastidieuse, qui est organisé en chapitres thématiques. Donc on a l'architecture, le jardin et les sculptures, puisqu'il y a évidemment un parc de sculptures qui est autour de la villa, qui aborde la question de la peinture, la question du cinéma, puisqu'on était tourné sur place, je disais, le mystère du château de Man Ray, mais aussi, là aussi très étonnant, les idoles de Marco avec Clémenti, Calfon et Bulogier. Il y a la dimension ethnographique, la mission Dakar Djibouti, Georges-Henri Rivière, et puis des intermèdes entre ces chapitres, par exemple un consacré au boxeur Al Brown. Il y a enfin une dimension romanesque très forte, avec ce couple qui a le sens de la fête.
Ouais. Tous ces gens sont passés par cette villa, si vous avez l'occasion d'aller la visiter. Il y a des moments évidemment d'ouverture au public de cette villa Noailles. En tout cas, on parlait du livre Charles et Marie-Laure de Noailles, mécènes du XXe siècle, livre écrit par Alexandre Marc, Stéphane Boudin-Lestienne. C'est aux éditions Bernard Chauveau, éditeur, en association avec la villa Noailles.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Dernier sujet au sommaire de cette émission Art Plastique, c'est une exposition intitulée Ossip Zadkine, l'instinct de la matière. On peut la voir jusqu'au 10 février au musée Zadkine à Paris. Les commissaires en sont Noël Charbert et Jérôme Godot.
Les rêves d'un sculpteur, puisque je suis sculpteur, est assez particulier. Il s'assoit ou il se couche, ou il s'allonge après avoir travaillé avec le marteau, avec les ciseaux, ou même en montant l'escalier, l'échelle, pour monter et toucher, retoucher la narine, s'il a une narine dans la sculpture. Il prend sa pipe, il fume et il commence à rêver. Rêver comment la sculpture devait être meilleure, comment devait-elle tellement bien. Tellement bien, tellement évocante, que peut-être, n'est-ce pas, que l'homme indifférent qui passe à quelques distances de la sculpture se réveillera, il cessera de penser à ses chaussettes et à ce que sa femme lui a dit, et tout d'un coup il pensera, qu'est-ce que c'est que ça tout d'un coup dans ma vie? Et la sculpture doit rentrer comme, pas comme un rêve, mais elle doit rentrer comme, oh, comme un rayon de soleil dans une cave peut-être, et comme quelquefois un bon petit beefsteak, assez médiocre, mais qui semble un chef-d'œuvre pour un homme qui ne l'a pas mangé très souvent.
Voilà, ainsi parlait Ossip Zadkine, l'instinct de la matière, avec un titre pareil. On se demande ce qu'on va voir, parce que c'est tellement ouvert et tout est possible. Et je me pose la question après avoir visité l'exposition, mais j'attends vos lumières. Frédéric Bonnet.
Il s'agit d'une belle remise en espace, enfin un beau réaccrochage de la collection. Après, moi, je suis resté un petit peu... Enfin, ça me pose plus de questions que ça ne m'apporte de réponses, cet intitulé, et surtout la manière dont sont présentées les choses. Parce que cette manière d'amener le sujet avec une... une question de la primauté de l'instinct et de la matière dans la confection. C'est une manière, en fait, de poser la singularité de Zadkine dans une époque où les primats du modernisme vont conduire à la tabula rasa et à une redéfinition absolument radicale de l'esthétique et de la représentation. Très bien. On parle d'approche sensorielle du bois, de la terre, de la pierre. Pourquoi pas? Mais affirmer que la matière primordiale va en contre de ce projet radical et confère une singularité certaine, moi ça me fait poser une autre question. Quid de l'intentionnalité? Parce qu'on va quand même pas me faire croire que tout sort du bloc de marbre ou de la pierre ou du tronc d'arbre. Donc il y a quand même une intention et je vois rien qui se relie à ça, d'autant que si encore une fois le sujet, c'est d'affirmer la singularité de Zadkine par rapport au mouvement moderne. C'est un peu contradictoire dans la manière où Zadkine a également embrassé les recherches du cubisme, l'exposition le montre, a également embrassé les recherches des arts décoratifs, l'exposition le montre. Donc en fait, je vois pas très bien où conduit le propos. C'est un peu brumeux pour ne pas dire fumeux. Et j'ai été également assez agacé, je dois dire, par l'emploi à tout bout de champ du terme primitivisme, que j'ai lu une bonne dizaine de fois, si c'est pas plus, dans les notices et dans les textes de salles. Alors, je veux bien qu'il s'agit d'une réalité historique et qu'au début du XXe siècle, le terme primitivisme s'employait et était un courant d'influence, très bien. Sauf que nous sommes au début du XXIe, déjà très engagé, XXIe siècle, très engagé, et que on ne peut plus forcément s'exprimer de la même manière qu'il y a un siècle, le terme primitif, le terme primitivisme, on les a un peu remis aux oubliettes, et pas pour rien. Le musée du Quai Branly, que je sache, s'appelle Musée des Arts Premiers et pas Musée des Arts Primitifs. Et ce type de nomenclature est employé avec une extrême précaution. Et là, il y a absolument aucune précaution. Et vous avez personne aujourd'hui qui peut vous défendre l'emploi de ce terme primitif. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec un artiste sud-africain dans son atelier à Johannesburg il y a de nombreuses années, Nicolas Lobo pour ne pas le nommer, et je lui demandais est-ce que vous pensez qu'il y a un retour d'une forme de primitivisme, justement, dans l'art contemporain aujourd'hui? Et il m'a regardé avec des grands yeux en me disant « primitivisme, c'est un mot très très lourd », et il a raison, et en effet. Donc, qu'on l'emploie une fois pour resituer le contexte, d'accord, là, il y est bien une dizaine, si c'est pas une quinzaine de fois dans l'exposition, et je trouve que c'est assez dommageable et problématique.
Bon, j'étais pas tout à fait seul dans la brume, parce que c'est un musée qu'on aime, hein, le musée Zadkine, c'est une œuvre qu'on apprécie, enfin, en tout cas, c'est mon cas, j'apprécie ce lieu et ce musée, mais je vais laisser Sandra Dancourallet poursuivre sur cette exposition aussi Zadkine, l'instinct de la matière.
Eh bien, je trouve que c'est pas la question, la singularité de Zadkine, je crois, dans cette exposition. C'est-à-dire que je trouve qu'au contraire, on met l'accent sur la question de la matière, qui participe peut-être d'ailleurs à la modernité des formes qui naissent, et auxquelles, d'ailleurs, beaucoup d'autres artistes d'avant-garde ont participé. Picasso, etc., ont participé, par exemple, à cette grande exposition universelle des arts décoratifs et industriels modernes de 1900, qui a eu lieu en 1925 à Paris. Et donc, voilà, cette question de la matière, cette question d'une stylisation des formes qui s'apparente parfois aux arts décoratifs, qui est soulignée dans l'exposition chez Zadkine, puisque ça en est le sujet, évidemment. Voilà, c'est juste une manière de souligner cette question d'un artiste qui est parfois à la limite, enfin qui se pose la question parfois de l'artisanat. C'est ce que montre l'œuvre, voilà, qui fait l'affiche de l'exposition, qui s'appelle le tigre ou le fauve, qui a été peint à la feuille d'or sur bois. Et Zadkine, à propos de cette œuvre, dit qu'il a inventé cet animal à partir d'un bloc de bois tordu que lui avait donné un ami. Et il dit « je me sentais à nouveau charpentier ». Voilà, c'est ce genre d'expérience à la matière qui est révélée dans l'exposition. C'est aussi l'influence...
Mais l'instinct, c'est quoi alors, dans le titre « L'instinct de la matière » ?
L'instinct de la matière.
C'est ça le titre ?
Tout à fait. L'instinct de la matière, il y a aussi... comment dire ? Je trouvais que le découpage thématique n'avait pas trop de sens dans l'exposition, ouais. mais que finalement, comme c'est un petit musée, on le sait, ça se lisait comme presque une seule et même salle, et que les œuvres qui sont quand même toujours très bien éclairées dans ce musée donnaient justement à voir, à contempler à notre tour les jeux de la matière, et notamment cette question de l'instinct, peut-être, elle se remarque avec cette première grande œuvre qui s'appelle Le Prophète, qui surgit comme cela dès le début de l'exposition, que Zadkine a réalisé dans un impressionnant tronc d'arbre qui est à peine ciselé, à peine incisé en 1914. Et on a une sorte de présence comme ça, mystérieuse, qui nous apparaît. Pour moi, c'est ça, l'instinct de la matière. Et surtout, on voit les nœuds du bois. Enfin, c'est un jeu avec cela. Et Zadkine, encore une fois, il est singulier, évidemment, mais il s'inscrit aussi dans, sans doute, une histoire des icônes russes et du spirituel dans l'art de Kandinsky, cette histoire d'une culture populaire russe qui a influencé également donc Kandinsky, mais aussi Goncharova, Malevitch, etc.
Bon, et donc là, on s'éloigne de l'instinct pour être dans l'histoire, peut-être. Bon, Anna Elpija, vous lisez ça comment, vous,
cette exposition ? En arrivant au musée Zadkine avec ce titre, on se demande, effectivement, on essaye d'attraper les idées énoncées par les commissaires. Et finalement, c'est une manière élégante de faire vivre la collection du musée. Et en soi, c'est une chose tout à fait remarquable. Alors, effectivement, on se demande en quoi Zadkine exerce une singularité dans ce domaine, puisque finalement le fait de s'intéresser à la matière, n'est-ce pas un peu le propre de
sculpteur.
N'importe quel sculpteur.
C'est quand même, oui, tombe sous
vrai,
le sens.
Voilà, il est vrai que les sections de l'exposition sont un peu confuses dans leur définition. En même temps, le catalogue est d'une véritable richesse, et il y a en particulier un texte de Dominique Vieville qui parle de l'impératif de sincérité de Zadkine dans son rapport aux matériaux et dans son rapport aux matériaux qu'il utilise. Voilà. Et finalement, je trouve que la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que on se promène dans l'exposition en regardant les objets. Ce qui est troublant, c'est qu'elle est elle est pas vraiment chronologique et pas vraiment thématique. Il y a des œuvres des années 60 qui interviennent assez tôt dans l'exposition, et voilà, enfin c'est plutôt une exposition thématique, et en même temps il y a quand même une sorte de progression. Finalement, l'intérêt de cette exposition, c'est de nous faire regarder les œuvres, et là encore, je trouve que c'est pas mal. Il y a
là-dessus, il y a pas de doute, hein, c'est bon. Voilà, là pour s'interroger sur cette exposition,
oui,
et son titre ce soir.
Oui, mais alors elle dit des choses, cette exposition, quand on regarde les œuvres, par exemple quand on voit les trois têtes d'hommes de 1913-1916, l'une en marbre, l'autre en terre et l'autre en bronze, qui ont à peu près la même forme, mais qui chacune, avec ces trois matériaux différents, disent des choses tout à fait différentes. Il y a l'extraordinaire tête de femme avec une bouche rouge, avec du rouge à lèvres en fait, et des yeux incrustés d'une pierre différente, qui date de 1924 et qui est probablement un portrait d'Eileen Gray, qui là aussi montre un mélange des matières tout à fait formidable. Il y a le fauve dont parlait Sandra, qui à mon avis est la pièce la plus extraordinaire de l'exposition. Il y a un homme inspiré d'une tête de Bodhisattva, avec la tête un peu penchée, qui est dans une ligne de sculpture avec différents bois de différentes couleurs. Et en fait, cette exposition, je trouve que c'est ça son intérêt, c'est de nous conduire à regarder les œuvres.
Justement, dans cette tête d'homme que vous mentionniez, en trois techniques différentes, en trois matières différentes, le marbre, la terre cuite, le bronze, cette juxtaposition contredit parfaitement le discours du primat de la matière. Mmh. Mais alors là, c'est magistral de se contredire soi-même à ce point-là. Et je réitère ma question initiale. Si le primat de la sculpture, c'est l'instinct, comme c'est annoncé, qu'est-ce qu'on fait avec l'intentionnalité? Parce que ça me semble être quand même le pendant de la chose, et rien ne l'aborde.
En quoi ça se contredit? Pardon.
Ça se contredit parce que si l'œuvre elle procède d'une matière en particulier, alors je sais pas quelle est la première, mais on va mettre le marbre, la répliquer en terre cuite ou en bronze, c'est simplement de la copie. Et là, il n'y a plus du tout d'essence créatrice qu'on essaie un peu de nous faire croire, j'ai cru comprendre dans l'exposition.
Dernier mot, Sandra, d'encore aller.
Ah oui, juste une petite chose que j'ai aimée dans l'exposition aussi, c'est la mise en avant de dessins et de gouaches au fur et à mesure du parcours qui sont montrés à côté des sculptures. Et on voit qu'au fur et à mesure, Zadkine s'en tient à un trait presque sans discontinuer sur la feuille. On dirait du Henri Michaud ou du Buffet dans les années 50-60, je crois. Il y a une sorte de circuit fermé presque qui apparaît sur la feuille qui effectivement peut aussi parler de, enfin peut faire écho à sa sculpture.
Aussi Zadkine, l'expo s'intitule L'instinct de la matière, à découvrir au musée Zadkine, qu'on vous encourage à aller visiter. C'est un lieu extrêmement agréable jusqu'au 10 février et puis on y voit des œuvres. La représentation était en question ce soir. Le catalogue est édité par Paris Musée. Et avant de conclure l'émission, Sarah Dion nous a rejoint pour le jeu de la dispute et nous rappelle la question du jeudi hier soir et nous donne sa réponse. Sarah.
La question était: à quel architecte doit-on le musée de la Romanité à Nîmes? Et la réponse est Elisabeth de Porzamparc.
Et ce soir, nous avons gagné des invitations pour le film Diamantino de Gabriel Abrantes et Daniel Schmitt, qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Quelle est la question?
Quel célèbre footballeur a inspiré le scénario du film Diamantino?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également vous réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Demain à 19h, une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Lucille Comeau, mais aussi avec quatre critiques invités, tous membres du jury du prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Quatre étudiants donc avec nous demain. On va parler ensemble des romans finalistes de ce prix, Arcadie d'Emmanuel Bayamaktam, Trois enfants du tumulte d'Yves Bichet, Ça raconte Sarah de Pauline Delamroix-Allard, La robe blanche de Nathalie Léger et Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu.